Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Par ici les sorties, votre émission sur les sorties culturelles. Ça va être une émission aujourd'hui un peu, allez si j'ose dire, peut-être un peu foutraque, un peu bazar. On va retrouver Proust, la psychanalyse, les rêves et surtout la littérature bien évidemment, la poésie, en compagnie d'Éric Godichaud. Alors ce nom ne vous est sûrement pas inconnu puisque Éric Godichaud est un peintre local, mais aussi un poète que j'avais déjà invité pour présenter son dernier recueil aux éditions Polder de la Revue des Charges. Mais aujourd'hui, Éric, bonjour.
Bonjour.
On va évoquer Proust parce que, je le dis, vous êtes psychanalyste et vous avez décidé d'initier plus ou moins, on va dire, des psychanalystes, ceux qui le veulent, à l'œuvre proustienne qui, pour vous, a été une découverte fabuleuse et peut-être, vous allez me dire si je me trompe ou pas, l'origine de votre vocation de psychanalyste.
Et je peux dire que Proust a été pour moi, a fait office quasiment de psychanalyste. M'a permis de... Bah, il m'a suivi au fond tout le long de ma cure. Quoi.
Ouais.
Et c'est une œuvre qui est très proche de la psychanalyse parce qu'un des grands thèmes de Proust, c'est de penser que le livre, en fait, il n'existe que parce que le lecteur le lit et que le lecteur peut lire en lui-même. Il dit que c'est comme un verre d'optique. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi d'ailleurs pour la journée que je ferai pour faire venir mes collègues de Paris, la lanterne magique, hein, qui est aussi un appareil optique. Donc c'est l'idée que le livre permet à chaque lecteur de se lire lui-même. Donc là, on voit bien le rapport avec la psychanalyse. Donc c'est une œuvre qui, quand on se plonge dedans, vous permet de mieux vous connaître et de faire interprétation.
Il y a quelque chose de très important dans votre vie et qui est déterminant, je suppose, du point de vue de votre vocation psychanalytique, c'est le rêve. Vous m'avez dit que vous rêviez et que vous avez cette particularité de vous souvenir de tous vos rêves, ou presque. Depuis quel âge ?
Depuis très, très, très jeune.
Très, très jeune. Ouais. Ça, c'est absolument exceptionnel.
De me rappeler des rêves que j'ai faits quand j'avais 5 ans, 6 ans. Oui, c'est mon domaine, quoi. Inévitablement, ça m'a amené à la psychanalyse. Freud dit le rêve, c'est la voie royale à l'inconscient. Voilà.
Est-ce qu'on peut vivre ses rêves pleinement comme on vit la réalité? Est-ce qu'on peut être créatif dans ses rêves, par exemple? Est-ce qu'on peut diriger ses rêves?
Alors ça, c'est une bonne question, parce que c'est un des auteurs qu'a lu Proust. Un auteur d'ailleurs qui est cité par Freud lui-même dans sa copieuse bibliographie à la fin de l'interprétation des rêves, Hervé de Saint-Denis, qui s'appelle, et qui a écrit un livre qui s'appelle L'art de diriger les rêves. C'est un beau titre. Et donc c'était un amateur éclairé. Il était professeur de tartare mandchou au Collège de France. Ça s'invente pas, c'est déjà poétique. Et il a écrit un livre justement sur le rêve lucide, c'est-à-dire les rêves à l'intérieur duquel on sait qu'on rêve et on pourrait éventuellement modifier les rêves. Donc Freud, cet auteur l'intéresse parce que, évidemment, a priori, c'est contradictoire avec la conception freudienne, qui est la conception du Wunsch. C'est-à-dire que le rêve exprime un souhait inconscient. Mais c'est marrant parce qu'il parle d'Hervé de Saint-Denis, il dit peut-être que le souhait justement d'Hervé de Saint-Denis, c'était de faire du rêve un champ d'investigation, un champ de jeu. Et c'est tout à fait ça. Alors Hervé de Saint-Denis, il nous ramène à Proust, parce que Proust a lu plusieurs auteurs qui précèdent Freud, et entre autres, il a lu « Le sommeil et les rêves » qui donne le titre à mon atelier de Maury, et le livre d'Hervé de Saint-Denis. Et dans le livre d'Hervé de Saint-Denis, il y a déjà un modèle pour expliquer le rêve, et c'est le modèle, je vous le donne en mille, de la lanterne magique.
C'est-à-dire, alors c'est quoi la lanterne magique ?
Alors c'est-à-dire, c'est un modèle, c'est-à-dire une sorte de métaphore pour exprimer le psychisme. Alors, cher Hervé de Saint-Denis, l'idée, c'est c'est de comparer finalement la production du rêve à un appareil projectif. Et donc Hervé de Saint-Denis s'intéresse aux images. Il a déjà vu ce que développera Freud, c'est que le rêve, c'est avant tout des images. C'est avant tout quelque chose qui doit être figuré par des images. Freud insiste beaucoup là-dessus parce que c'est ce qui fait que le rêve finalement est crypté. Parce que comme l'idée, comme le Wunsch, le souhait inconscient, doit s'exprimer à travers des images, doit être figuré, obligatoirement il y a un effet de déformation. Cette déformation est produit en fait le texte du rêve qu'on appelle le contenu manifeste. Et la grande idée de Freud, et il n'y a pas ça chez Hervé de Saint-Denis, c'est que le rêve doit être interprété.
Alors, j'imagine par contre qu'il y a plusieurs écoles d'interprétation du rêve. Il y a l'interprétation freudienne, psychanalytique. Est-ce qu'il y en a, il y en a d'autres ? Vous, c'est un choix. Vous avez fait un moment de dire, voilà, c'est le regard de Freud sur le rêve que je vais...
Chez Freud, ce qui est très important, c'est que le rêve, il n'est pas interprété par l'analyste. C'est qu'il est interprété par le patient.
Par le patient. Ouais.
Il n'y a pas de position, finalement, de surplomb. Ce que peut faire l'analyste, c'est aiguiller et entendre quelque chose que le patient, par exemple, n'entend pas. Mais il n'est pas obligé d'intervenir. Et c'est le patient qui va faire le travail de déliaison, si vous voulez,
Comme tu veux. Comme tu voulais.
Comme tu voulais. Le rêve va crypter, en fait, en quelque sorte, le message inconscient. Et le patient, en racontant son rêve et en associant, va enlever les nœuds finalement et retrouver... Alors retrouver quoi ? Ce qui est important chez Freud, ce qu'on retrouve, c'est ce qu'il appelle l'infantile, c'est-à-dire ce qui remonte à la petite enfance. Et ça, c'est quelque chose qu'on va voir dans la scène de la lanterne que je vous lirai tout à l'heure. La scène de la lanterne dans La recherche du temps perdu. Parce que l'histoire qui est projetée par la lanterne, c'est l'histoire de Sainte-Geneviève, donc une légende du Moyen-Âge qui remonte au temps mérovingien. Donc c'est l'idée comme ça de quelque chose d'originaire, d'archaïque, qui a un rapport évidemment avec la sexualité. Et ça, c'est proche aussi de Freud.
Oui. Est-ce qu'on peut dire que Proust s'est auto-analysé à travers son œuvre ?
Oui, on peut dire ça parce que, en fait, surtout avec la recherche, parce que Proust, c'est étonnant parce que c'est l'auteur d'un livre. Finalement, il a écrit toujours le même livre, mais il y a eu plusieurs étapes. Mais dans la recherche, ce qui est absolument étonnant, c'est que alors que dans les autres livres, il va être plus direct, on comprend mieux ce qui est autobiographique, dans la recherche, il va créer ce qu'on appelle un palimpseste, comme le rêve d'ailleurs, c'est-à-dire des couches. Il va superposer des couches. Et donc, il va y avoir quelque chose qui est dit, mais qui est caché, qui est occulté. C'est au lecteur de le retrouver, et par exemple de le retrouver grâce à ce qu'on appelle la génétique des textes. C'est-à-dire, alors ça, il faut expliquer, c'est... Et Proust concevait vraiment son texte comme cela, c'est-à-dire pas terminé. C'était un texte qui était tout le temps
en chantier.
En chantier. Il avait 75 cahiers hein, qu'on connaît, qu'on peut consulter même sur Internet. Et dans les 75 cahiers, en fait, il y avait tous les épisodes de la recherche. Et il disait à sa servante, qui s'appelait Céleste, donnez-moi, parce qu'il avait une mémoire extraordinaire, donnez-moi le cahier numéro 4. Donc il reprenait un passage, mais Proust ne simplifiait jamais ce qu'il avait écrit, il rajoutait toujours, même sur les épreuves. Il rajoutait du texte les fameuses paperolles qui sont des...
Qu'est-ce que c'est ? Oui, les paperolles.
Les paperolles, c'est étonnant de voir ça concrètement. C'est-à-dire que sur les épreuves d'imprimerie, il rajoutait des sortes de textes pliés, comme ça, qui se déroulaient, et parfois qui pouvaient faire plusieurs mètres. Donc Proust, c'est le maître du « j'en rajoute ». Il n'enlève jamais, il rajoute toujours. Ouais. Et toujours avec génie. Parce qu'en fait, toute la fin de son œuvre, il est mort quand il était en train de corriger La Prisonnière. Donc il restait Albertine disparue et Le Temps retrouvé. Donc ça, c'est resté sous forme de manuscrit. Mais quand on lit Le Temps retrouvé, c'est absolument extraordinaire. Si tous les manuscrits avaient cette valeur...
Voilà. Alors, il s'est auto-analysé, on le disait tout à l'heure, parce qu'évidemment, il n'est jamais allé voir un psychanalyste. Comment il s'y prenait, finalement, pour s'analyser? C'était quelqu'un qui rêvait, lui aussi, beaucoup, qui notait ses rêves. Je sais que vous, par exemple, vous notez systématiquement vos rêves.
Hein. Oui, j'ai fait ça quand j'ai commencé mon analyse il y a 30 ans. Et puis, je continue. Quand je me réveille, en tout cas, je les note. Alors, ce qui est étonnant chez Proust, c'est l'homme du paradoxe. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a écrit sur le rêve et le sommeil, et qui rêvait très peu, je vais vous expliquer pourquoi, et qui ne dormait pas, qui était insomniaque. Donc, à un moment de sa vie, après la mort de sa mère, il était obligé d'aller dans une clinique, un épisode que l'on retrouve sous une autre forme dans Le Temps retrouvé, où le narrateur quitte la vie et s'éloigne du monde et va dans un hôpital pour être soigné. En fait, c'est un élément autobiographique. Et le docteur Saulier, qui était un élève de Charcot, soignait les troubles du sommeil et les intoxications. Parce que Proust, comme il ne dormait pas, prenait des quantités astronomiques de médicaments. Et comme il prenait des somnifères très très puissants, dont un qui s'appelle le chloral, en fait, ça avait fini par l'empêcher de rêver. Donc en fait, paradoxalement, il a peu rêvé, et les rêves qu'il a notés, c'est les rêves que l'on trouve dans le carnet de 1908, qui est un carnet de notes, et qui est vraiment qui est un carnet très émouvant, parce que là, on voit la recherche qui commence à naître. Et ces quelques rêves, en fait, que j'appelle des rêves matrices, sur lesquels on travaillera lors de notre atelier à Paris l'année prochaine, ces quelques rêves, en fait, il va les reprendre dans la recherche. Il va, justement, toujours sous la forme d'un palimpseste, il va les transformer, il va déplacer certains éléments. Mais ces quelques rêves, ça doit être 4 ou 5 rêves. Voilà, et avec ça, il va pouvoir écrire tous les rêves de la recherche. Parce qu'en fait, la recherche du temps perdu, un des thèmes vraiment principaux, c'est pas moi qui l'a dit, c'est Walter Benjamin, c'est le rêve. On peut dire que c'est une entrée extraordinaire, une sorte de couloir qui permet de traverser toute la recherche.
Ouais. On va écouter un peu de musique et on se rejoint après, peut-être pour lire un passage de Proust, la fameuse lanterne magique.
Très bien. Thank you.
Nous voici à nouveau ensemble pour un Paris s'il est sorti tout à fait inhabituel, puisqu'on ne parle pas de spectacle ni de concert. On parle de Proust, de la psychanalyse. On va peut-être sans doute parler de la poésie en compagnie d'Éric Godichaud, qui est tout ça à la fois d'ailleurs, qui est poète, psychanalyste, et qui ces temps-ci propose à des amis psychanalystes de revisiter l'œuvre de Proust. Pour quelle raison, tiens, précisément, vous adressez-vous à des psychanalystes ?
Bah, parce que je fais partie d'une association, la Fédération des ateliers de psychanalyse, et puis que pour entrer dans cette fédération, on est accueilli par des gens. Et lorsque j'ai rencontré Anna Angelopoulos, à un moment, dans la discussion, elle s'est arrêtée, elle m'a dit « Et vous, qu'est-ce que vous pouvez apporter à notre association ?» Et c'est là que tout de suite, j'ai eu l'idée, Proust. Elle m'a dit « Ah, c'est une bonne idée, ça fera venir des gens.
» J'ai promis à nos auditeurs une lecture d'un extrait de Proust à la recherche du temps perdu. C'est la lanterne magique, je crois, c'est ça. Hein.
On avait bien inventé pour me distraire les soirs où on me trouvait l'air trop malheureux de me donner une lanterne magique dont, en attendant l'heure du dîner, on coiffait ma lampe. Et à l'instar des premiers architectes et maîtres verriers de l'âge gothique, elle substituait à l'opacité des murs d'impalpables irisations, de surnaturelles apparitions multicolores, où les légendes étaient dépeintes comme dans un vitrail vacillant et momentané. Mais ma tristesse n'en était qu'accrue parce que rien que le changement d'éclairage détruisait l'habitude que j'avais de ma chambre et grâce à quoi, sauf le supplice du coucher, elle m'était devenue supportable. Maintenant, je ne la reconnaissais plus. J'y étais inquiet. Comme dans une chambre d'hôtel ou de chalet où je fusse arrivé pour la première fois en descendant de chemin de fer. Au pas saccadé de son cheval, Golo, plein d'un affreux dessin, sortait de la petite forêt triangulaire qui veloutait d'un vert sombre la pente d'une colline et s'avançait en tressautant vers le château de la pauvre Geneviève de Brabant. Ce château était coupé selon une ligne courbe qui n'était autre que la limite d'un des ovales de verre ménagé dans le châssis qu'on glissait entre les coulisses de la lanterne. Ce n'était qu'un pan de château. Il avait devant lui une lande où rêvait Geneviève, qui portait une ceinture bleue. Le château et la lande étaient jaunes, et je n'avais pas attendu de les voir pour connaître leur couleur, car avant les verres du châssis, la sonorité mordorée du nom de Brabant me l'avait montré avec évidence. Golo s'arrêtait un instant pour écouter avec tristesse le boniment lu à haute voix par ma grand-tante, et qu'il avait l'air de comprendre parfaitement, conformant son attitude avec une docilité qui n'excluait pas une certaine majesté aux indications du texte. Puis il s'éloignait du même pas saccadé, et rien ne pouvait arrêter sa lente chevauchée. Si on bougeait la lanterne, je distinguais le cheval de Golo qui continuait à s'avancer sur les rideaux de la fenêtre, se bombant de leurs plis, descendant dans leurs fentes. Le corps de Golo lui-même, d'une essence aussi surnaturelle que celui de sa monture, s'arrangeait de tout obstacle matériel, de tout objet gênant qu'il rencontrait, en le prenant comme ossature, en se le rendant intérieur, fût-ce le bouton de la porte sur lequel s'adaptait aussitôt, et surnageait invinciblement sa robe rouge ou sa figure pâle, toujours aussi noble et aussi mélancolique, mais qui ne laissait paraître aucun trouble de cette transvertébration.
Merci beaucoup. Hein. C'est donc un extrait. On va redonner
le mot final, transvertébration.
Transvertébration. Ouais, Eric, vous m'avez dit qu'il aimait beaucoup les trans. Il utilisait beaucoup les trans. Pourquoi ?
Transvertébration, trans.
Et même transsubstantation. Hein, rien à voir avec la transsubstantation eucharistique chez les catholiques.
Oui, mais c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est le changement de substance. Alors, il faut dire que la figure de style préférée de Proust, c'est la métonymie, c'est-à-dire le glissement de sens. Et trans aussi, ça indique un fantasme qui était un fantasme proustien, qui était plutôt de se vivre comme une femme, du moins avoir une homosexualité. D'ailleurs, il n'employait pas le terme homosexuel.
Il réfute, quoi, ce terme.
Il employait le terme inverti, donc inversion. Pour lui, dans la recherche, tous les homosexuels sont des invertis, c'est-à-dire des hommes qui se saisissent du côté du féminin.
Oui.
C'est lié à sa relation fusionnel avec sa mère. Et c'est d'ailleurs ce que raconte l'histoire de Golo et de Geneviève que je viens de lire. C'est que Golo, l'enfant finalement, le narrateur, il aurait fallu lire un peu plus loin, mais le narrateur s'identifie à Golo. Et Golo, en fait, c'est le méchant de l'histoire. C'est celui qui accuse injustement Geneviève d'avoir fauté, d'avoir eu un enfant hors du mariage, parce que son mari est parti à la guerre.
Voilà. Alors, à travers ces ateliers que vous animez pour des amis psychanalystes, qu'est-ce que vous allez leur faire découvrir? Le prochain atelier, par exemple, c'est quand?
Alors, l'atelier sera organisé, en fait, autour des rêves, du sommeil et des rêves. Donc, le premier atelier, ça sera... l'étude de l'incipit de la recherche, où on voit le narrateur qui se réveille quelque part et qui ne sait plus du tout où il est. C'est un phénomène psychologique assez courant. Moi, ça m'est arrivé une fois, j'étais au Mans, et pendant 5 minutes, enfin, peut-être pas 5 minutes, mais ça a paru long, je ne savais plus qui j'étais et où j'étais. Et donc la recherche est... elle commence avec ce vacillement de l'identité.
Donc il nous apprend énormément vraiment sur la structure psychique de l'être humain. C'est aussi intéressant que Freud finalement, Proust.
Ah oui, c'est aussi intéressant, c'est différent, c'est une voie, on pourrait dire une voie parallèle, mais d'ailleurs Freud le disait, l'a dit très explicitement, que les écrivains, les grands écrivains, la littérature finalement arrivait aux mêmes conclusions que la psychanalyse. Et que c'était des outils pour comprendre la psyché humaine, pour en saisir sa complexité.
Alors oui, le temps passe, il nous reste vraiment un peu de temps, mais je voudrais qu'on parle quand même de poésie, parce que évidemment vous êtes aussi poète, et le rêve a beaucoup d'importance dans votre travail, c'est la matière première de votre travail poétique.
Oui. C'est-à-dire que je me suis servi du travail du rêve comme technique d'écriture, quoi. Et que souvent, je suis réveillé la nuit parce que j'ai rêvé d'un mot, d'une phrase, d'une situation, et puis c'est le point de départ pour écrire les textes. Je pense qu'un poète, c'est quelqu'un qui doit être comme ça, en quelque sorte fixé, branché sur son inconscient.
Oui.
En fait, l'inconscient, ça c'est la grande idée de Freud. C'est pas dit comme ça, mais moi je le dis comme ça, c'est que c'est l'analyse qui fait qu'il y a un inconscient. C'est l'analyse qui fait l'inconscient. C'est important parce qu'il y a de l'inconscient parce qu'il y a un analyste en même temps. C'est dans la relation à deux que l'inconscient peut
surgir, quoi,
peut
finalement.
Surgir, peut être. Alors peut surgir, oui, c'est-à-dire qu'on peut en saisir une partie, mais par définition, l'inconscient reste inconscient.
Ouais.
On entend souvent les gens dire « j'ai fait ça, c'est inconscient ». Si c'était inconscient, ils ne pourraient pas le dire.
Ouais. La métaphore poétique, c'est la langue de l'inconscient, alors c'est ça? C'est
ouais.
Un peu ça.
Ouais. Un peu ça, ouais. Bah, c'est, oui, la parole... En anglais, la psychanalyse s'appelle « talking cure », la cure par la parole.
Ah.
Mais c'est quelque chose qui existait depuis longtemps. Les Grecs, les Romains avaient bien compris ça. La parole, c'est essentiel, et la parole, c'est la relation à l'autre. Et c'est l'amour aussi. Ça, c'est ce que disait Lacan. Le transfert, il se passe quelque chose dans l'analyse, dans la cure qu'on appelle le transfert. Il disait, le transfert, c'est l'amour.
Alors le transfert, dites-nous, parce que tous les auditeurs de Radio Rancière ne connaissent pas la psychanalyse. C'est quoi exactement le transfert en langage psychanalytique?
Le transfert, c'est-à-dire, c'est l'idée que dans la relation avec l'analyste, quelque chose du passé se joue, et le rôle de l'analyste, justement, c'est d'entendre ces éclats qui arrivent à la surface, ces bulles, un peu comme dans un marais où il y a quelque chose qui se... une décomposition, voilà, et de les prendre au vol, et de comprendre que, en fait, dans la relation à l'analyste, quelque chose, oui, effectivement, se rejoue... du passé et d'un trauma. La grande idée aussi, c'est l'idée du traumatisme qui est là dans toute
vie, finalement.
Dans toute vie et dans toute enfance, qui parfois peut empêcher les gens d'être dans la vraie vie.
Ouais.
Parce que tout le monde non plus n'est pas obligé de faire une analyse. Pour faire une analyse, et l'analyste lui-même l'a fait d'abord pour ça, c'est parce qu'on a des grandes difficultés et qu'on veut... Et qu'on veut vivre. La grande idée, c'est que la mort, de toute manière, elle sera toujours là, à la fin de la vie. Mais ce que nous promet, et qu'elle tient comme promesse, la psychanalyse, c'est d'être dans la vie, d'être vivant quand on est vivant.
Ouais. Eric, il me reste allez, une minute, on va dire. Je voudrais quand même qu'on parle de À bâton rompu. C'est une émission que vous allez animer sur Radio Grand Ciel l'année prochaine, à partir du mois de septembre. Donc vous n'allez pas... parler coup psychanalyste à travers vos ateliers, vous allez aussi parler aux auditeurs de Radio Grand Ciel, et qu'est-ce que vous allez leur dire?
Alors, bâton rompu, en fait, à bâton rompu, comme son nom l'indique, ça sera des sortes d'associations, comme ça, de pensées associatives autour de grands thèmes. L'idée du bâton rompu, vous savez, c'est dans l'épaisseur de l'eau, la réfraction qui donne l'impression que le bâton est cassé. Donc l'idée, en fait, dans ces émissions, ça sera, à partir de thèmes, d'essayer de sortir des sentiers battus et de vagabonder, comme ça, autour des thèmes. Donc, je peux vous donner déjà les...
Ah oui, quelques-uns, en rond.
Le premier, bah, ça sera les souvenirs et la mémoire, parce que c'est deux choses différentes. Il y aura aussi le rêve et le sommeil, on y revient. Le conte, les contes de fées. Donc là, il y aura une interview d'Anna Angelopoulos, qui fait partie de la Fédération des ateliers de psychanalyse et qui est une spécialiste des contes grecs, les oiseaux, la poésie, la cuisine, le jardinage, qui est une métaphore de l'écriture, le lit, très important, le monde des couleurs, la psychanalyse, les gens de peu, c'est-à-dire tous ces gens qu'on côtoie tous les jours et auxquels on ne fait pas toujours attention, qui ont parfois des vies qui méritent d'être racontées. Et une promenade littéraire dans Chartres, où à partir d'une promenade dans Chartres, on verra, on fera un petit panorama de la littérature.
Vivement l'année prochaine, et on donne rendez-vous donc à nos auditeurs. Ça s'appelle À bâton rompu, et ce sera tous les mois sur nos ondes. Merci beaucoup en attendant de Merci. Cette émission apéritive, on va dire. Hein, et on se dit à l'année prochaine.
Oui, à l'année prochaine.